terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Merci, merci à Corneille pour cette entrée. Ben, c'est l'entrée pour recevoir notre invité. Bonjour Mara.
Allô.
Mara Joliet dans notre studio et puis nous sommes heureux, très heureux de t'avoir avec nous.
Je suis en larmes.
Pourquoi?
J'arrête pas de pleurer. En plus, j'ai mis du mascara bleu, je vais avoir des gros sourires bleus sur les joues. Ben, je pleure parce qu'encore une fois, Cyril, ta sensibilité, ton intelligence et ta générosité ont parlé, m'ont pris par surprise. Et je pense que tu n'es pas sans savoir que j'ai participé à une émission qui s'appelle Talent d'Icite, où est-ce que des personnes émergentes étaient appelées à partager qui était une influence marquante dans leur parcours artistique au Québec. Et j'ai parlé à Corneille, et puis ça a été un moment très éprouvant pour moi, parce que avant, sur le moment, c'était super cool, mais avant, je me vomissais dans la bouche de nervosité, de me dire « Mais non, mais je vais pas tout lui dire ça, franchement. » Puis c'était filmé et tout ça, puis j'étais comme « Oui, mais c'est comme, si c'est pas là, c'est quand? » Et ça a été un grand exercice d'authenticité pour moi, et de me dévoiler, d'être transparente. Et ça m'a tellement nourrie, et ça a été un moment magique. Et en plus, c'est capté, un talisman magique, et là, j'arrive ici, boum, par surprise, tu nous fous la chanson de 2002? Vraiment?
mais c'est qu'en fait, quand on s'est parlé il y a un peu plus d'un an, ça, je ne savais pas, je ne connaissais pas cette anecdote-là de l'influence de Corneille dans ta vie. Mais là, tu parles de cette émission-là. Il t'a peut-être inspiré, mais moi, quand je la regarde, je vois ce que ta révélation lui fait à lui et Corneille aussi. Parce que c'est dans les deux sens, parce que ça a complètement changé sa perspective aussi en tant qu'artiste. Et donc,
oui, il y a un truc qui m'a tellement bouleversée. D'ailleurs, il a dit... Si je t'avais rencontré avant et j'avais su que pendant que je faisais ça, il y avait toi qui vivais ça, je pense pas que j'aurais fait de burn-out.
Tout à fait. et ça, c'est, effectivement, j'ai vu ça. Mais voilà, c'est Mara Joliet. On veut parler d'elle et puis là, c'est parti. On est allé carrément dans tout un autre chapitre. Là. C'est Corneille. Mara, en ce moment, on ne parle que de ça. Ouais. Hein? Non,
ouais, mais
on ne parle que de ça après le déluge.
Après le déluge.
Une série qui a commencé jeudi dernier, il y a quelques jours, donc sur Novo, tous les jeudis à 21h. C'est 6 épisodes, 1h chaque. Après le déluge, et c'est vraiment le déluge dans les médias.
Une pluie d'amour, un déluge d'amour, un déluge amoureux.
Voilà, c'est ça. On a beaucoup parlé de ce film, on va en parler, mais deux, trois mots sur Mara. Déjà, il faut que les gens, vous savez quoi, vous allez repartir encore, on va remettre ça en avant, il faut que vous alliez écouter cette merveilleuse, je n'appelle même pas ça entrevue, cet échange que tu m'avais accordé, où vraiment, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui, un des entretiens qui m'a le plus marqué, je te le dis vraiment sans flatterie aucune,
moi aussi.
Mais ça m'avait énormément marqué. Mara, on parle du déluge, mais Mara, aujourd'hui, on a l'air de l'oublier, tu as une formation de comédienne.
Ouais.
Et puis, tu es passée... devenue scénariste.
Ma seule formation, est-il besoin de le souligner?
Qui est la plus merveilleuse, regarde où ça t'a mis aujourd'hui, où tu t'es mis à l'écriture après, un talent que tu avais du mal. D'ailleurs, est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu te sens toujours encore un peu comme imposteur par rapport à l'écriture?
Ou
aujourd'hui...
Non, ça va, là.
Aujourd'hui, ça va.
Tu
assumes ton talent
vraiment. Tout en étant aussi une personne qui aime ça être entourée. Donc, après le déluge, c'est sûr que c'est moi qui l'écris principalement et tout. J'ai quand même collaboré avec des personnes qui avaient plus d'expérience que moi pour m'aider à me porter à certains aspects de l'écriture télé, là, je parle. Mais oui, non, maintenant, c'est bon... ça va. Puis aussi, le fait d'être réalisatrice, ça fait que je suis en montage. Et donc, donc la scénariste en moi apprend beaucoup et je prends des notes dans ma tête. Je fais ah oh, non mais t'as fait ça, mais en réalité à l'image c'est ça que ça donne.
Ouais, puis, c'est ça.
Et aussi le fait le montage c'est la troisième écriture. Donc, c'est un apprentissage aussi supplémentaire. Puis évidemment, je travaille avec des gens qui sont meilleurs en montage que moi, donc j'apprends aussi d'eux. Et ça fait de moi une meilleure autrice. Donc, c'est un écosystème, ça roule, ça, la roue roule. Donc, dans le fond, avec un seul projet, je peux grandement me bonifier. Autant parce que j'y réalise aussi que la deuxième écriture, puis le montage, la troisième. Mmh. Fait que plouc, 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 ça roule.
J'ai fait un post il y a quelques jours où je dis il y aura... Avant le déluge, à la télévision québécoise, il y aura après. Mais on parle du déluge, mais ce qu'on ne sait pas, ou des gens peut-être aujourd'hui découvrent après le déluge, mais Mara Jolie, c'est quand même la maison des folles.
Oui.
Cette série, je pense, sur 2 ans, quand même, qui est passée sur UNITV,
yes.
Où tu décrivais l'univers des maisons d'accueil.
Ouais, familles d'accueil.
Des familles d'accueil, ouais. Voilà, c'est ça, des familles d'accueil. Et
centre jeunesse aussi, maintenant qu'on appelle centre de réadaptation. Ouais. Mm-hmm.
Une série aussi, pareil, on retrouve cet univers-là. Je vais dire quoi? Un univers relativement, pas dur, mais très réel.
Ben oui,
qu'on retrouve aussi dans Après les déluges. Tu es très dans la réalité, c'est-à-dire montrer les choses telles qu'elles sont.
Ben, j'écris ce que je connais. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que. Je cacherai pas que ça fait 4 ans que je pense à un long métrage afrofuturiste.
Ok.
Ouais, des
réactions.
Je vous entends. I know. Genre, je rêverais de. Mais même si je vais dans un truc afrofuturiste, je vais toujours parler de trucs que je connais, tu vois. Mm. Mais avec le temps, le bagage, tu sais, j'accumule du vécu, le bagage de ce que j'expérimente de la vie s'agrandit aussi. Donc, je vais pouvoir éventuellement parler d'encore plus de sujets divers. Mais tu sais, c'était vraiment important pour moi de parler de ce que je connaissais. Puis j'ai tellement vécu de honte par rapport au manque, au fait d'être défavorisé, de manquer de privilèges sur certains aspects, d'en avoir aussi sur d'autres. Mais je veux dire, je trouvais qu'on était. Et quand on parlait de nous, pas par nous, je trouvais que c'était fait de façon qui, moi, pouvait m'agresser, me micro-agresser. Et j'avais besoin de sortir de ma honte personnelle. En fait, j'étais tellement indignée que mon indignation était plus grande que ma honte. Mm-hmm. Et ça m'a forcée à faire comme, ben là, fuck off, là, je suis tellement fâchée, je vais le faire. Et ça m'a donné un cadeau parce que quand j'ai fait La Maison des Folles, je pensais pas au départ qu'il faudrait que je me out-closet par rapport à cette situation-là. Mais une chose en amenant une autre, ça l'a déboulé. Et le retour de ça a été tellement puissant. Et encore, jusqu'à tout récemment, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire à quel point ça avait eu un impact positif sur elle et sa mère. Mmh. Enfant du système première, deuxième génération, exactement comme moi, afro comme moi, etc. Mmh. Et je veux dire, j'ai chialé ma vie. Là. Fait que là, tu fais ton petit vendredi après-midi, ton petit samedi matin, whatever. Puis là, tout d'un coup, boum, tu tombes sur un message comme ça. Je veux dire, le sentiment de connexion humaine et surtout que c'est des personnes très... comment je peux dire ça? C'est des personnes tellement variées. C'est tellement fou, la diversité de tout ce qu'on peut devenir en sortant de ce système-là, que j'étais comme, mon Dieu, c'est merveilleux. Fait que c'est très réparateur. Donc, c'est un peu un cadeau que je me suis fait. Moi, à la base, je voulais dire à ces enfants-là d'aujourd'hui, je te vois comme ça.
Tout à fait.
Je te vois épique, grand, résilient. Je te vois, t'es une des personnes les plus intéressantes que j'ai rencontrées de ma vie, des plus braves et puissantes. Et j'avais envie d'offrir ça à ces jeunes-là parce que moi, j'avais pas reçu ce regard-là sur moi. C'était un regard misérabiliste. Et au final, le retour que je reçois est comme...
J'aime beaucoup ce que tu viens de dire là sur les enfants qui sont dans ce système-là, la diversité de ce qu'ils peuvent être à la fin.
Ouais.
Ce qui en soi, qui devient une richesse,
c'est
qui
fou.
Devient une force en fait.
C'est énorme! Et aussi, je trouve qu'il y a des trucs à améliorer dans le système, évidemment, parce que, tu sais, comme mettons l'expérience que ma mère a vécue, horrible. Mm-hmm. Tu sais, je pense qu'on serait devenu schizophrène à moins, honnêtement, c'est pas possible. Moi, l'expérience que j'ai vécue, horrible aussi, un petit peu mieux. Tu sais, je me suis fait battre en famille d'accueil, tu sais, je peux dire beaucoup de choses. Mais aussi, en parallèle, il y avait aussi, mettons, des gens qui gratuitement me recevaient. Et moi, j'ai inclus ces gens-là dans le côté accueil, même si c'était pas payé pour le faire. Donc, une famille zaïroise, enfant de diplomate, l'élite intellectuelle du Zaïre qui avait fui, 14 frères et sœurs qui m'ont accueilli chez eux pendant des mois, qui voulaient même m'adopter. C'était comme tellement... Oh, mon Dieu, ma vie aurait été différente. Puis aussi, mettons... la madame canadienne-française qui habite à Saint-Léonard, qui peine à joindre les deux bouts, mais qui va m'habiller dans les trucs pas chers, qui va donner du linge à ma mère pour m'aider, qui va lui apprendre à cuisiner des plats pas chers, etc. J'inclus que ces gens-là ont été formidables. Donc, même si c'était pas payé pour le faire, fait que je trouve que je suis vraiment une réussite du système. T'sais. Puis j'étais en Afrique de l'Est pendant 5 mois, un mois et demi. Puis je regardais...
Ça a juste duré un mois?
Non, j'étais là cinq mois, oui. Il y a ces semaines. Et puis, tu sais, je regardais, mettons, le tissu social. Tu sais, il n'y a pas là-bas l'assurance santé, il n'y a pas tout ça. L'esprit communautaire est vraiment puissant. Ça fait une immense différence. Ça n'empêche pas que des fois, il y a quand même des enfants qui peuvent se ramasser, déscolarisés, à quitter sur la rue, mettons. Et moi, je me disais... Wow! Moi, j'avais pas nécessairement ce tissu-là, ce réseau-là à la maison. C'est vraiment le gouvernement qui m'a pris ou qui a pris ma mère. Et si ces gens-là avaient pas existé, si ce système-là qu'on a créé n'existait pas, j'aurais été cet enfant, tu comprends? Et je me disais, wow, je suis à une structure, une organisation sociale et un choix de société. Je suis le résultat de ça, je suis cette réussite-là, et en fait, j'ai envie de... Il y a eu des moments durs, le système n'est pas parfait, il faut vraiment le bonifier, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais j'ai envie aussi de dire à ces gens-là, aux jeunes qui sont dedans en ce moment, à ceux qui ont été dedans, qui s'en sortent et qui le disent à personne autour d'eux, parce qu'il y a un certain tabou encore par rapport à ça, ben, let's go, man, comme...
Vite ta vie, quoi. Écoute, c'est ça, vite ta vie.
Moi, je suis tellement fière. Je suis tellement... Comme on est né avec tellement de défis et on a tellement rebondi et on a accumulé du vécu, tu sais. Pour moi, la réussite, c'est Franck Lobvet, un Français. C'est rare que... Non, je dirais pas... J'irais pas là. Mais... Un homme blanc hétérosexuel français, écoute, de 50 ans, quand même. On est un peu loin de mes référents, mais il dit des choses vraiment bien. Puis Franck Lebet, il dit que selon lui, la réussite, la quête du succès, du bonheur, machin, ça nous rend un peu misérables et malheureux. Puis il dit comme, moi, je pense qu'une bonne vie, c'est une vie où est-ce qu'on a accumulé du vécu.
Tout à fait.
Et dans ce sens-là, je trouve que les personnes qui ont été des enfants du système ont accumulé un tel vécu, ils ont un tel regard sur la société. C'est tellement riche l'histoire qu'on porte. Et je pense qu'après le déluge, notamment, et la Maison des Folles sont des résultats directs de ça.
Direct de ça. Et justement, après le déluge, cette série-là, Mara Jolie, c'est quoi après le déluge?
Yo!
Parle-nous un peu de ça, après le déluge.
Oh my God! Écoute...
Une série initiée par le Cheval de Troie.
Ouais! Oh my God, Cyril! Oui, en fait, on pourrait quasiment dire que après le déluge est né... La genèse de ça est née en Afrique du Sud en l'an 2000, quand j'ai battripé sur qu'est-ce que je pouvais faire avec le fait que j'étais afro, white appearing, puis que j'étais dans un pays où est-ce que la vie de ma mère coûtait 50 balles, tu donnais 50 balles à un policier, puis les noirs étaient... les personnes, si t'étais une personne blanche, tu peux donner 50 balles à un policier, puis
Il te laissait
aller, en fait. Mm-hmm. Donc, on était en post-apartheid. L'international se vantait de dire que c'était terminé, voilà, c'est bon. Mais en fait, non, les mentalités étaient restées les mêmes. Et il y avait une espèce de « underworld » pour maintenir les forces au pouvoir, les forces telles quelles, une espèce de une résistance, en fait, même si les lois officielles avaient changé. Et les gens s'arrangeaient entre eux. Et notamment, ben, moi, je débarque là avec ma mère, j'ai 14, puis... moi, je suis white appearing, fait que les gens me traitent d'une certaine façon, même si je suis un enfant, la traitent d'une autre façon, avec énormément de violence, me détestent, et j'ai eu peur de mourir quand ils voient que je suis white appearing, parce que je suis l'incarnation de leur pire cauchemar, dans le sens que...
White appearing, c'est-à-dire que t'es blanche quand
je
on te voit.
Je parais pour blanche, exactement. Blanche, ouais. Mm-hmm. Fait que là, quand une personne afro a l'air... Toi, en tant que personne blanche qui veut perpétuer un système d'oppression, conscient ou inconscient, quand tu vois que ton allié dans ce système-là est en fait ton ennemi et la personne que tu veux dominer et que tu t'es fait duper, des fois, il y a des réactions dans le regard ou dans l'énergie ou dans même des choses qu'ils peuvent faire qui sont assez violentes. Il y a comme une espèce de trouble de se dire « Cette personne à laquelle je m'identifie sort du corps de la personne la plus déshumanisée sur la planète, la femme noire. » Donc, il y a quelque chose de tellement brain-fuckant pour ces gens-là. Et bref, je suis partie sur un sujet... Mais ça fait que des années plus tard, je suis devenue comédienne au Québec et puis j'ai participé à un moment donné. Je pense que c'est sérieusement l'audition que j'ai préférée dans ma vie. Je suis comme, oh my God, c'est tellement cool. Sur le coup, je réalise vraiment pas que c'est parce que l'acteur qui va jouer le rôle et qui m'a la réplique dans l'audition est afro. Je fais pas le lien. Mm-hmm. Je suis juste, oh my God, meilleure audition de ma vie. Le vibe était trop bon, c'était super cool. J'ai le rôle, je suis comme, ah, c'est trop nice. J'arrive sur le plateau, plein de figurants afro. Je suis comme, oh my God. Mais encore une fois, je fais pas le lien que c'est ça. Mais je suis juste comme, la musique est bonne, le vibe est bon, le charisme, le swag, yeah, ça se passe. Et là, finalement, on commence les trucs et le réalisateur est super agressif, il crie sur son équipe. Je me rends compte que le show est méga raciste. Moi, j'avais reçu mes scènes. Et là, je suis juste comme, oh my God, je suis piégée. Mm-hmm. Je suis the white bitch dans ce show-là. Et je perpétue des trucs. Et c'est là que j'ai rencontré Penant d'Estime, entre autres, qui, elle, était habillée comme une... pute, en fait. J'ai rien contre les prostituées, je vous célèbre travailleuse du sexe, mais dans ce qui était habillé dans la vision, mettons,
dans
dégradante.
Dans la vision qu'on a dégradante.
Une Jézabel cheap. Mm-hmm. Pendant que moi, j'avais une robe Zara 600$, tu vois ce que je veux dire? Ils n'avaient pas su quoi faire avec sa peau, son make-up. C'était tellement horrible. En plus, la première phrase qu'il a présentée était hyper fétichisante. C'était dégueulasse. Puis moi, ben, je l'accusais faussement de viol parce que, bon, pourquoi pas, hein? Fait que le mec, son frère, bref. C'était tellement intense. Et là, je suis sortie de là, puis je me suis sentie, j'ai eu l'impression d'avoir été dupée. Et je me rendais compte, je savais pas encore à ce moment-là, que les personnes blanches sur le plateau ne se rendaient pas compte de la violence qu'ils perpétuaient. Moi, étant donné que j'ai grandi aussi en France et en Afrique, où est-ce que c'est très ouvert et su de tous, et c'est même revendiqué d'une certaine façon, il y a une hypocrisie qui est un peu moins présente, je te dirais. Je suis arrivée ici avec le référent que, ici aussi, tout le monde savait, le perpétuer en s'en foutant un peu. Mm. Puis j'ai compris que peut-être pas, à force de côtoyer des plateaux, des personnes blanches, en fait, en arrivant, en côtoyant des personnes blanches, j'ai dit, enfin, est-ce qu'ils savent peut-être pas? Mais je pense qu'ils savent. Mais bref, j'étais tellement indignée et choquée. Je me disais, mais comment je fais pour ne pas participer à ça? Et mon sentiment d'injustice était si grand. Ben, ça m'a pris tout ce temps depuis 2016. Mais 4, 5, 6, 7, 7 ans plus tard, Penant des numéro 1 sur une série qui s'appelle Après le déluge, puis elle est fucking badass. Mm-hmm.
C'est quoi l'histoire?
C'est l'histoire de Penant. Penant d'Estime. Non, c'est Maxime Salomon qui est une policière qui va prendre, qui en fait va partir une initiative communautaire de fonder un club de mixed martial arts, de arts martiaux mixtes.
MMA, là.
MMA, oui, exactement, pour aider des jeunes dans des situations difficiles à garder le cap, en fait, mm-hmm. et à être dans un réseau, avoir du support et toute l'équipe. Mm-hmm.
Le casting de cette série, parce que c'est aussi ce qui fait... J'ai même pas encore posé ma question. Le casting de cette série est nouveau. Nouveau, hein, je parle nouveau, je parle pas de la chaîne. Là. Le casting, il est inédit. C'est rare qu'on voit ça. Au Québec, ouais. Il est inédit au Québec.
Depuis, je pense... au moins le temps des dinosaures, ça s'est jamais fait.
Ça s'est jamais fait. aujourd'hui, c'est fait, on le voit sur les écrans.
Ça y est.
Quelles ont été les difficultés?
There's no way back. Mmh? Les difficultés, oh, Seigneur Cyril. Est-ce que tu peux être un peu plus... Il faudrait que je regroupe les difficultés en thèmes.
Non, donne-moi juste quelques-unes. Tu n'as pas eu de mal à trouver de diffuseur, par exemple?
Non, tu sais, il y a une situation par rapport à ça, c'est qu'il y a 4 diffuseurs au Québec. Tu vois? Donc, c'est rare, je pense, que peut-être certains créateurs se sentent libres d'exprimer certaines choses parce que, mettons, tu veux pas te mettre personne à dos parce qu'il y en a juste 4. Tu vois mm-hmm. ce que je veux dire? Donc, pour répondre à ta question, tu sais, je pense que je glisserais sur cette question pour dire que quand je suis arrivée à nouveau, ça a été phénoménal, la réception. Avant, le parcours entre mon idée en 2018 dans un café, André Guluni me dit « Écoute, c'était mon script éditeur sur la Maison des Folles. » Il dit « Écoute, tu dialogues bien les jeunes. Qu'est-ce que t'en penses si on faisait une série sur le van life ou sur la boxe? » Puis là, j'étais comme « Ah, oh, le van life, c'est trop cool! » Et là, il est comme, ouais, mais on n'aurait jamais l'argent au Québec avec les budgets pour partir en voyage. Mm-hmm. Ce serait la préparation de la vanne, le retour de vacances saison 2. Puis là, j'étais comme, ah, c'est bien poche. Excuse-moi si j'ai piqué. J'étais comme, ah, c'est bien trop poche. Fait que là, il dit la boxe. J'étais comme, ah, la boxe. Moi, j'ai fait des arts martiaux. Au Gabon, je faisais du kwan-kido. J'étais arrivée en famille d'accueil. Ça m'a sauvé la santé mentale. Je faisais 9 à 12 heures de thai box, de karaté. Puis après ça, j'ai fait du Krav Maga. Bref, je pourrais énumérer des trucs. Un de mes frères est ceinture noire de karaté. Ça lui a sauvé. Lui est schizophrène et autiste. Ça lui a complètement sauvé sa santé mentale, entre autres. Et puis, j'ai un autre frère. Lui, il fait des combats de boxe. Il faisait des combats de boxe amateurs à 17-18 ans. Donc, je peux vraiment dire que les sports de combat, ça nous a, au niveau familial, des traumas transgénérationnels et notre contexte, ça nous a vraiment aidés. Et je pense que ça m'a aidé aussi dans le parcours avant de rencontrer Nouveau. Parce que j'ai tellement eu de résistance avant de rencontrer Nouveau. Ne serait-ce que des producteurs qui disaient « Tu peux pas le réaliser parce que t'as pas assez d'expérience. Tu peux pas l'écrire, t'as pas assez d'expérience. Ouais, mais whatever. » Puis, quand je suis arrivée finalement à Nouveau, ça a été vraiment phénoménal la réception. Et ce que je ne savais pas, c'est que la personne qui était assise devant moi, elle avait carte, j'aime bien dire carte noire, mm-hmm. mais dans son vocabulaire, elle dit carte blanche. Elle avait carte noire pour. Est arrivée à Nouveau. Nouveau, c'est un nouveau câble distributeur. Tu sais, avant, c'était VTL. Mm-hmm. Nouveau arrive belle, en fait. Et puis, elle avait carte noire comme ça pour faire ce qu'elle voulait. Moi, je sais pas. J'ai avec mon projet. Et je pense que c'est un projet qu'elle attendait, en fait. Mais il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui ose le présenter, tu vois. Et j'ai été reçue de façon phénoménale parce qu'elle connaissait exactement de quoi je parlais. Son mari vient d'Afrique, ses enfants sont métis. Elle voulait un show comme ça.
Néo-Québec, dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant.
Voilà, toujours en compagnie de Mara Jolie, qui, vous le savez, scénariste, réalisatrice de cette série Après le déluge, et coproductrice avec Myriam Charles.
Zama Production.
Je connais tout, voilà.
Excuse-moi, je suis trop enthousiaste.
Voilà, c'est ça. Myriam, coucou, on te salue.
On t'adore, on te vénère. Oui.
Je disais que je veux qu'on parle de l'équipe parce que quand je parlais devant la caméra, oui, j'ai dit casting inédit.
80% du casting est afro, on peut
voilà,
se dire.
Voilà, c'est exactement ça.
Puis
c'est
dark skin.
C'est quelque chose pour lequel tu étais très, très, très fière.
Ouais, ouais. Hein,
tu vraiment, c'est...
Ah, mais c'est la raison d'être de ce show-là. Je suis tellement contente. Mais en même temps, j'ai pas écrit ça pour ça. C'est ça qui est drôle. C'est que c'est comme si j'ai pas... Parce qu'après ça, il y a eu un gros discours comme après le meurtre de George
Floyd.
Pourquoi?
Tu l'assumes pas?
Ah, non, complètement. Mm-hmm. Non, je l'assume à 200%. C'était mon rêve. C'est mon rêve, là.
OK.
Mais c'est juste que... Tu sais, mettons, des fois, il y a certains journalistes blancs mm-hmm. qui vont me dire « Alors, tu fais un show sur la diversité. Mm-hmm. » Puis je suis comme « Oh, non, j'ai pas fait un show sur la diversité. » Parce que si j'avais fait un... Si mon angle d'approche, ça avait été sur la diversité...
Ce serait ça le sujet.
J'aurais pris des multimillionnaires mm-hmm. qui dépensent beaucoup d'argent et qui rêvent de rencontrer l'amour. Et puis, je t'aurais foutu plein de diversité là-dedans, entre guillemets. Mm-hmm. Plein de gens québécois, mais j'aurais... Tu comprends? Alors que là, moi, ce que je voulais faire, c'est donner des parts... faire un truc un peu plus afrocentrique, aussi afrocentrique que je peux le faire mm-hmm. Dans le mainstream, avec des personnages phénoménaux, puis des femmes dark skin mm-hmm. et des personnages des hommes dark skin aussi, mais juste comme... C'est ça. Donc, c'est pas le même angle.
C'est un peu bizarre, la question. As-tu fait un film sur la diversité?
Ouais.
Je dis parce que, bon, je vais un peu plus tard en... Je parlerai...
Bibliques.
Non, mais avec, avec Palina, dont ça a été un peu ça, la mission avec son agence, quand elle a lancé l'agence On est là, mm-hmm. c'est justement de mettre en avant tous les artistes, les artisans de la
répondre,
des diversités.
Bah, répondre à, voilà. On ne sait pas où les trouver. Mais
voilà, c'est ça, répondre à cette question, entre autres. Mais ça fait un peu bizarre. Mais par contre, dans nos discussions, tu avais aussi un autre souci, qui était que dans l'équipe technique, tu aimerais avoir, alors on revient encore avec le terme, un peu plus de diversité. Ça n'a pas été totalement, ou c'est pas encore ça?
En fait, il y a eu plusieurs départements où est-ce qu'on avait la chance d'avoir des afros. Ça a vraiment fait du bien, un bien énorme, en fait, parce que les personnes, non seulement les acteurs qui arrivaient pour quelques journées, qui ne connaissaient pas notre vibe, arrivent, un, t'es pas la seule personne afro, what the fuck. Deux, la personne au CCM aux cheveux est afro, elle sait exactement ce qu'elle fait, what the fuck. T'arrives sur le plateau, t'es pas le seul acteur afro, puis derrière la caméra, dans le plateau, il y a plein d'afro. La personne qui vient te nourrir, ça goûte à la maison, tu comprends? Mm-hmm. Parce que t'es afro. T'sais, c'était comme, c'était malade. Mm-hmm. Après, c'est ce que j'ai eu une équipe 50-50? Non. Mais comme, j'ai quand même eu... puis même, mettons, le DOP, il est métisse, son père
vient français,
du Pérou.
En français, c'est quoi, DOP?
Oh, merci, directeur de la photographie.
Merci.
Fait que lui, t'as la caméra, puis son père est péruvien, il a grandi à côté des HLM, des quartiers, il a fait du MMA quand il était ado. Fait que bref, il y avait, mettons, des acteurs un peu plus, en fait, hispanophones, incluant un kid, qui lui arrive, puis il est très impressionné par tout le monde. Mais t'as le monsieur qui lui fout la grosse caméra dans le visage, qui s'assoit avec, puis qui parle espagnol, puis ils font des blagues, puis ils ont plein de référents communs. Fait que c'était comme, ça détend, tu te sens chez toi, en fait.
Ouais,
parce que si t'es juste un petit acteur tout seul, et que 60 personnes qui te regardent ne sont pas nécessaires, peuvent représenter un danger s'il n'y a pas de safe space ou si tu as des... You know, je ne vais pas rentrer là-dedans.
Ne rentrons pas dedans.
Bref, je suis très fière de l'équipe.
Deux dernières questions, Mara Jolie.
Yeah.
C'est tous les jeudis, donc, on l'a dit, sur Novo à 21h.
Ouais, et sur Crave aussi.
Et sur Crave aussi.
Il y a deux épisodes sur Crave en ce moment. Il y a
un épisode d'avance. Donc, Crave a une avance d'un épisode. Pourquoi est-ce qu'on doit regarder cette série?
Oh my God. Wow. Ben moi, j'aimerais ça que les gens le regardent et m'écrivent après pourquoi il fallait absolument qu'ils la regardent.
Oh, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça, comme réponse. Alors, allez regarder la série. C'est tous les jeudis sur Novo, 21h. Malia, t'as regardé le premier épisode? Je l'ai crié sur tous les toits qu'il fallait le regarder. Est-ce que tu l'as regardé? Dis-moi oui. Dis-moi oui,
ma... Je vais pas dire oui, mais je vais dire juste que moi, je t'entends parler et ça me touche énormément parce que j'ai passé presque un an en foyer.
Oh, mais voyons donc!
C'est une émission pour te faire pleurer, en fait, c'est ça. C'est un complot.
Les ancêtres sont tellement là.
C'est ça, j'ai passé presque un an en foyer et je sais que c'est difficile d'en sortir et de faire quelque chose de sa vie, de reconstruire sa confiance en soi, de ci, de ça, j'ai pas à faire une liste. Je pense qu'on a le même vécu, même si je l'ai vécu en France, je l'ai vécu
En
France, n'est-ce pas? Donc, je te laisse imaginer.
La DAS?
Ça aurait pu être pire, oui, la DAS. Mais en tout cas.
Merci,
Malia. Palina, est-ce que tu as regardé ce premier épisode?
Moi, j'aime Binge Watch, puis pour comme rentrer dans l'univers, puis je voulais attendre, avoir tout d'un coup. J'ai envie de faire quelque chose parce que comme je trouve ça vraiment émouvant. Mais j'ai écrit à Mara il y a quelques jours, je savais pas que tu vas avoir des larmes.
Tu vas pas pleurer aussi.
Je savais pas qu'on allait avoir Mara là. J'ai écrit à Mara parce que je trouve qu'on justement on parle beaucoup d'après le déluge, mais pas assez de Mara. Puis après le déluge, je serais jamais là comme ça si c'était pas de Mara et de sa résilience. Puis moi, je la suis comme de façon un peu candide depuis. La maison des folles, parce que j'ai été énormément touchée, parce que j'ai un parcours quand même que je suis un enfant de la DPJ in and out depuis plusieurs années. Ma mère aussi, ma mère qui m'a eu très jeune. Donc, c'est comme un drôle de hasard qu'est-ce qui se passe en ce moment, très touchant. Puis de montrer qu'on peut réussir, on peut être autodidacte, on peut écrire des histoires incroyables. Puis d'entendre Malia qui dit qu'il est passé aussi par là. Parce que ça nous marque, hein.
Ouais,
c'est
bien
comme
sûr.
Un faire chaud, puis c'est traumatisant. Allez vous éduquer pour pourquoi ces systèmes-là existent. On s'entend que ça existe pour désauvager les enfants autochtones et racisés. Donc, c'est très violent que ça existe encore, puis qu'on y passe, puis la mentalité autour de ça. Fait ouais, on devient des gens incroyables qui sont nommés, qui gagnent des prix. Là, t'es entouré de femmes qui ont plein de prix, là.
Je me sens tout... Tu vois, c'est pour ça que je suis tout calmé. En retour, je vous dirais merci. Je voulais qu'on parle de la série après le déluge. Et là, on vient de passer 25-30 minutes. Mara, je voulais qu'elle parle de sa série. Vous, on s'amuse tous les dimanches ici à faire l'émission, mais je découvre un aspect que je ne connaissais pas. Et c'est ça la magie de la radio. Mm-hmm. Merci, merci à vous de nous donner ce moment-là. Ben voilà, Mara, ce que tu fais. Merci, merci d'être venue. Merci pour ce que tu fais.
Merci à toi.
Je te l'ai déjà dit, je te le dis toujours, vrai. Mais. Bravo, bravo à toi, bravo à toute l'équipe. Penande, je sais pas si elle est revenue, mais allez la voir dans ce film-là, cette série. C'est jeudi à 21h sur Novo. Et puis, comme a dit Palina, suivez Mara Jolie, suivez son travail. Franchement, vous allez être très enrichis. La Maison des Folles est encore, c'est encore sur UniTV. Vous pouvez
saison
aller voilà, voir les deux saisons, ce qui va vous permettre justement de comprendre un peu comment ça se passe, de voir un peu comment ça... C'est pas voir, mais c'est comprendre. Et puis, cette série-là, Novo. Il y a un artiste qui a dit un jour que le bon Dieu est une femme. On finit avec ça. Merci.
Trop fort.
Mara, à bientôt.
Merci.
La terre saigne depuis la nuit des temps, de grandes misères et de guerres souvent. Et pour chaque soldat qui rentre, une femme attend. Les hommes les pires et les tout puissants, les pires bourreaux et même Adolphe vivant avaient tous au moins une femme qui les aimait tant.
Mon nom est Cyril Ekwala.